Chapitre 11. Wisling. L'attachement des femmes aux propriétés de leur clan est remarquable. Dans les légendes qu'elles évoquent souvent, la terre est pétrie de la chair et des os d'Eda, tandis que la mer est le domaine d'elle. La terre appartient aux femmes du clan. Les hommes nés de ce groupe ont le droit de cultiver les champs et de participer aux récoltes, mais ce sont les femmes qui décident de la répartition du produit de leur travail, ainsi que des cultures à mettre en place, où et dans quelles proportions. Il ne s'agit pas de simple entretien d'un patrimoine, mais de vénération et d'obéissance à Eda. Les hommes n'ont pas de lieu d'inhumation particulier, et l'on confie le plus souvent leur corps à la mer. Mais les femmes doivent reposer dans les champs de leur clan. On honore les tombes 7 années durant, au cours desquelles on laisse en jachère les terrains d'ensevelissement. Ensuite, on reprend le labour et la première récolte est servie lors d'un banquet spécial. Les hommes d'outre-mer sillonnent les mers et peuvent rester absents de leur port d'attache plusieurs années. Mais les femmes, elles, s'éloignent rarement des terres de leur naissance. Et lorsqu'elles se marient, il est entendu que leurs époux habiteront avec elles. Si une outrilienne meurt loin de la propriété de son clan, on mettra en œuvre des moyens extraordinaires pour rapporter sa dépouille chez elle. Agir autrement représenterait une grande honte et un grave sacrilège, et les clans sont prêts à faire la guerre pour rapatrier le corps d'une des leurs. Récit d'un voyage en terre barbare, du scribe Jérepu. Nous séjournâmes 12 jours à Wisling, à l'invitation de la maison maternelle de la Narcheska, bénéficiaire d'une hospitalité singulière. On avait alloué à Imbre et au prince des bancs pour dormir au rez-de-chaussée du bâtiment. Le clan de Vif était logé avec les gardes en dehors de l'enceinte, et Lour et moi résidions dans notre maison, où Lest et Crible passaient souvent. Chaque jour, Imbre envoyait 2 hommes d'armes acheter des provisions au marché. Ils nous remettaient une partie de leurs emplettes, une autre à leurs camarades, et rapportaient le reste à la maison des mères. Bien qu'Onde Noir eût promis de subvenir à nos besoins, le vieil assassin avait préféré s'en tenir à sa tactique d'origine. Apparaître dépendant de la générosité du clan du Narval donnerait une impression de faiblesse et d'un manque coupable de préparation. Ce long séjour présenta quelques aspects positifs. Lour commença de recouvrer la santé. Il toussait toujours et s'essoufflait vite lorsqu'il se promenait, mais il dormait d'un sommeil moins fiévreux, s'intéressait à ce qui l'entourait, mangeait, buvait et sortait peu à peu de son accablement. Il m'en voulait toujours de l'avoir forcé à m'accompagner en bateau et de devoir repartir un jour par le même moyen. Chaque fois que je tentais de bavarder avec lui, la conversation finissait inévitablement par achopper sur ce sujet. Parfois, saisi par le démon de la facilité, je ne lui adressais pas la parole. Mais alors je sentais la rancune qui bouillonnait au fond de lui. Je me désespérais de cette tension entre nous, alors que je m'étais donné tant de mal pour gagner sa confiance. Je m'en ouvris à Imbre lors d'une de nos rencontres en coup de vent, et il en minimisa l'importance, n'y voyant qu'un mal nécessaire.
« Il serait beaucoup plus grave qu'il en veuille à devoir. Tu dois assumer ton rôle de bouc émissaire, Fitz. »
Je le savais pertinemment, mais je n'en retirais aucun réconfort. Crible passait plusieurs heures chaque jour en compagnie de Lour, en général quand Imbre me demandait de surveiller discrètement le prince. Tram et Lest venaient souvent aussi à notre maison. La réprimande du maître de Vif semblait avoir porté. Le jeune garçon lui manifestait, ainsi qu'à moi, un respect plus prononcé. Je m'occupais quotidiennement de son instruction et j'exigeais qu'il s'exerce autant à l'épée qu'à l'arc. Lour s'installait devant la maison pour regarder nos assauts dans l'enclos à moutons. Il soutenait toujours l'enfant et poussait des beuglements de joie chaque fois qu'il m'assénait un coup de son épée matelassée. J'avoue que ces acclamations meurtrissaient mon amour-propre autant que les charges de l'Est, ma chère. Je cherchais plus à entretenir mes talents de bretteur qu'à développer ceux du jeune garçon. Toutefois, non seulement ces cours me fournissaient l'occasion de mettre ma technique en pratique, mais ils me permettaient d'afficher ma compétence devant les Outriliens. Ils ne venaient pas en foule, mais, de temps en temps, j'apercevais 1 ou 2 adolescents en train de nous observer, juchés sur un mur proche, et leur présence ne me paraissait pas motivée par la seule curiosité. Ayant conclu que je faisais sans doute l'objet d'une attention particulière, je veillais à ce que les rapports sur moi ne me décrivent pas comme une proie sans défense. J'avais l'impression que des yeux me suivaient partout. Quant au lieu où je me rendais, il se trouvait quelqu'un qui traînait là, comme par hasard. Je n'aurais su désigner le garçon ou la vieille qui me filait, mais je sentais sans cesse des regards dans mon dos. Je percevais aussi un danger pour Lourd dans les coups d'œil qu'on lui lançait quand nous sortions et dans les réactions des gens que nous croisions. Il s'écartait de lui comme s'il souffrait d'une maladie contagieuse et nous lorgnait par derrière comme s'il eût été un veau à deux têtes. Même le petit homme paraissait s'en rendre compte, et je m'aperçus que, sans y penser consciemment, il se servait de l'art pour se dissimuler. Il ne s'agissait plus du « ne me vois pas » dont le coup de boutoir avait failli naguère me terrasser, mais plutôt d'une proclamation constante de son insignifiance. Je rangeais cette découverte dans un coin de ma mémoire pour en discuter plus tard avec Imbre. J'avais rarement l'occasion de m'entretenir en tête à tête avec mon vieux mentor, et les messages que je lui artisais restaient laconiques. Nous convenions tous qu'il devait économiser son énergie pour la conserver à la disposition du prince. Il avait aussi décidé, puisque Péotr Rondenoir avait percé à jour mon rôle de garde du corps de devoir, que je pouvais le suivre plus ouvertement.
« Du moment qu'il ne se rend pas compte que tu es bien davantage que ce personnage »,
avait-il ajouté à titre d'avertissement. Je m'efforçais de surveiller et de protéger devoir le plus discrètement possible. Mais, bien qu'il ne se plaignît jamais, me sentir constamment aux aguets non loin de lui devait le gêner. Dans le village, on les considérait désormais, Eliania et lui, comme mariés, et il n'était pas question de les chaperonner. Seule la présence de Péotr, aussi subtile qu'une pierre dressée au milieu de la route, rappelait que certains membres de la famille de la Narcheska veillaient à la chasteté de leurs relations tant que devoir n'avait pas rempli sa part du contrat. Je crois que le guerrier et moi, nous épions autant que nous gardions l'œil sur les deux jeunes gens, et d'une étrange façon, nous finîmes nous-mêmes par former un couple. Je découvris à cette époque une des raisons pour lesquelles on tenait la Narcheska en si haute considération dans tous les clans, et pas seulement celui du Narval. Dans la culture autrilienne, la terre et ses produits appartenaient aux femmes, et j'avais supposé que la fortune du clan résidait dans ses moutons et ses brebis. C'est seulement en suivant Eliania et de voir lors d'une de leurs longues promenades parmi les vallonnements rocheux de l'île que j'eus la révélation de sa véritable richesse. Ils franchirent une colline, Péotr à quelque distance derrière eux, et moi-même beaucoup plus loin encore. Je passai le sommet à mon tour et restai pantois devant la vue qui s'offrit à moi. Dans la vallée en contrebas s'étendaient trois lacs, dont deux fumaient malgré la chaleur de l'été. Une végétation luxuriante poussait sur leurs rives, aussi foisonnante que celle des champs aux alignements précis et soignés qui quadrillaient la vallée. Comme je descendais à la suite du couple et de Péotr, la brise fraîche qui soufflait constamment s'interrompit, et je sentis dans cette cuvette naturelle la chaleur de l'air immobile et l'odeur de l'eau chargée de minéraux. On avait débarrassé la terre de ces pierres et de ces rochers qui, sous forme de murets, divisaient désormais les cultures. Non seulement les plantes cultivées croissaient mieux qu'ailleurs dans cette vallée toujours tiède, mais j'en repérais de sauvages, ainsi que des arbres que j'aurais jugés trop fragiles pour s'épanouir dans ces contrées nordiques. Au milieu des îles d'outre-mer, au climat âpre, existait une île que ses sources bouillonnantes transformaient en pays de cocagne. Rien d'étonnant à ce que la main de la Narcheska fût si demandée. Une alliance avec celle qui gouvernait la production alimentaire de l'île représentait un véritable trésor dans ces terres inhospitalières. Pourtant, je notais que, malgré le plein été, quantité de champs restait en friche et que les ouvriers étaient plus rares qu'on ne l'eût escompté. Là encore, femmes et jeunes filles l'emportaient en nombre sur les hommes dont la plupart n'avaient pas atteint ou avaient largement dépassé l'âge adulte. Je n'y comprenais rien. L'île regorgeait de femmes détentrices d'un joyau et qui manquaient de bras pour le cultiver. Pourquoi les autres clans les courtisaient-ils si peu pour s'adjoindre, par leurs enfants, cette terre d'abondance? Un soir, Devoir et Eliania faisaient sauter deux des petits poneys décharnés, typiques de ces îles, dont les habitants de Maïlé se servent pour une multitude de tâches. Ils avaient choisi pour terrain d'exercice une prairie caillouteuse qui s'étendait sur une pente douce en contrebas d'une colline parsemée de blocs de rochers, et fabriquer des obstacles en abattant des baliveaux posés ensuite sur deux rocs proches. Je restais stupéfait de la hauteur des bonds qu'effectuaient ces animaux lorsqu'on les acculait à sauter. Les moutons avaient coupé l'herbe rase et des buissons rabougris entouraient la prairie. La voûte du ciel, d'un bleu de plus en plus profond, s'étendait au-dessus de nous. Les premières étoiles ne tarderaient pas à apparaître. Les jeunes gens montaient à cru, et déjà Devoir était tombé deux fois de sa maigre mais cabocharde monture en s'efforçant de suivre le rythme de son épouse intrépide. La jeune femme s'amusait de tout son cœur. Elle montait de côté, ses jupes jaunes retroussées jusqu'aux genoux, épanouie comme une fleur sur ses jambes, laissant même ses pieds à nu. Les joues rouges, échevelées, elle ne se préoccupait que de montrer au prince qu'elle pouvait le surpasser en équitation. La première fois qu'il avait chu, elle avait poursuivi sa course avec un rire moqueur. La seconde, elle fit demi-tour pour voir s'il s'était blessé, tandis que Péotre rattrapait la petite bête rétive et la ramenait auprès d'eux. J'observais Devoir avec attention, et j'éprouvais une grande fierté de la bonne humeur avec laquelle il avait pris ses chutes. « Ces poneys sont aussi durs et décharnés que des veaux. Essayer de se maintenir dessus est plus douloureux qu'en tomber quand ils bondissent brusquement de côté. » « Liania paraît s'en tirer sans difficulté, » répondis-je pour le taquiner. Devant le regard qu'il me lança, j'ajoutai précipitamment. « Mais ça n'a pas l'air facile, en effet. Je crois qu'elle admire votre ténacité. À mon avis, elle admire surtout mes contusions, cette petite teigne. » Je perçus une ombre d'affection dans l'épithète. Comme pour détourner mes pensées, le prince poursuivit. « Jetez un coup d'œil sur votre gauche et dites-moi si vous voyez quelque chose dans les buissons. » J'obéis sans tourner la tête et je distinguai une forme à l'endroit indiqué, mais je ne pus déterminer s'il s'agissait d'un grand animal ou d'un homme accroupi. Le prince remonta sur le dos de sa monture et s'accrocha à sa crinière pendant qu'elle se lançait dans une série de bonds effrénés dans la prairie. Le poney en avait manifestement assez de ce jeu, mais le rire joyeux d'Eliania récompensa les efforts de Devoir pour éviter la chute. Il franchit l'obstacle devant lequel il avait échoué auparavant et elle salua la performance d'un grand geste. Elle semblait sincèrement apprécier le spectacle, et un regard discret me permit de voir que même le visage sévère de Péotre s'illuminait d'un mince sourire. Je joignis mon rire à celui des jeunes gens et m'approchai d'eux. « Dirigez-vous vers cette zone là-bas et tombez par terre. Arrangez-vous pour que votre poney s'enfuie vers les gros rochers. » Devoir martisa un grognement mécontent, mais obéit. Quand l'animal s'élança, je me précipitai à sa poursuite et le chassai devant moi plus que je ne tentais de le rattraper. Nous débusquâmes ainsi une femme vêtue de vert mousse et de brun. Elle prit la fuite sans chercher à feindre et je reconnus non seulement sa façon de se déplacer, mais aussi l'infime trace d'odeur que je captais d'elle. Je réfrénais mon envie de lui donner la chasse et artisais ce que j'avais découvert à Imbre et Devoir. C'était Enya, la servante de la Narcesca à Castelser. Elle se trouve sur l'île et elle nous espionne. Je ne perçus en retour qu'une double onde d'angoisse. Je me montrai volontairement maladroit pour saisir le poney, et Péotre finit par venir m'aider. « Eh bien, nous avons fait une belle peur à cette vieille femme, » lui lançai-je en obligeant l'animal récalcitrant à prendre sa direction. Il l'attrapa par le toupet et observa le ciel sans me regarder. « La nuit tombe. Nous avons de la chance que le prince n'ait pas fait une chute plus grave et qu'il ne se soit pas blessé. » Il ajouta pour notre escorte outrilienne, « Il faut rentrer. Les poneys sont fatigués et l'obscurité vient. » Avait-il tenté de me prévenir d'un danger qui menaçait le prince, pire que tomber d'un poney? Je le relançai. « La vieille femme n'a rien, à votre avis? Ne faudrait-il pas la chercher? Elle avait l'air terrifiée. Je me demande ce qu'elle faisait derrière ces rochers. » Le visage impassible, d'une voix qui ne trahissait rien, il répondit, « Sans doute ramassait-elle du petit bois ou des herbes et des racines. Inutile de s'inquiéter pour elle. » Plus haut, il dit, « Eliania, il n'est plus l'heure de s'amuser. Il faut rentrer à la maison maternelle. » J'ai vu l'expression d'Eliania quand Enya s'est enfuie. Elle a eu l'air effarée. Maintenant, elle a peur. La sécheresse avec laquelle elle hocha la tête en réponse à Péotre confirmait le jugement du prince. Elle se laissa glisser à terre, puis ôta la bride à l'animal et le laissa s'en aller librement sur la colline. Péotre effectua la même opération pour le poney du prince, et nous nous mîmes tous en route pour regagner la maison des mères. Eliania et Devoir marchaient en tête, et leur mutisme contrastait tristement avec la bonne humeur qu'ils partageaient peu auparavant. J'avais de la peine pour eux. Il apprenait à aimer la jeune Autrilienne, mais chaque fois qu'il parvenait à se rapprocher, la politique du trône et du pouvoir venait s'interposer. Pris d'une brusque colère, je déclarai tout de go. C'était Enya, n'est-ce pas, celle qui se cachait dans les buissons. Elle servait la Narcheska au château de Castelserre, si je me rappelle bien. Je dois reconnaître que Péotr garda tout son sang-froid. Il ne put se résoudre à me regarder, mais répondit d'un ton calme. Ça m'étonnerait. Elle a quitté notre service, avant notre départ des six duchés. Nous avions l'impression qu'elle serait plus heureuse dans votre royaume, et nous l'avons donc dégagée de grand cœur de ses obligations. Peut-être a-t-elle eu le mal du pays et regagné Whistling par ses propres moyens? Elle n'a pas ses origines chez nous. Elle n'appartient pas à notre maison maternelle, répondit Péotr d'un ton catégorique. Bizarre. J'étais résolu à ne pas lâcher prise. En tant que garde, je pouvais me montrer à la fois curieux et indélicat. Je croyais que chez vous, c'était la famille maternelle qui comptait, et que celle qui servait la Narcheska provenait de la lignée de sa mère. D'habitude, c'est exact. Le ton de Péotr devenait guindé. Mais, au moment de notre départ, personne n'était disponible. Nous l'avons donc embauché. Je comprends. Avec un haussement d'épaule, je poursuivis. Je me pose une question. Pourquoi la mère et les sœurs d'Eliania ne l'accompagnent-elles pas? Sont-elles mortes? Il tressaillit comme si je l'avais piqué. Non. Sa voix se teinta d'amertume. Mais ses frères aînés, oui. Ils ont péri dans la guerre de Kébal-Pingru. Sa mère et sa sœur puînée sont vivantes, mais retenues ailleurs par une affaire importante. Elles se trouveraient avec nous si elles en avaient le loisir. Je n'en doute pas, répondis-je. J'étais convaincu de la véracité de ses propos et tout aussi certain qu'il ne me disait pas toute la vérité. Plus tard dans la soirée, alors que Lourd dormait profondément, j'artisais notre échange à Imbre. Je tâchais de canaliser mes pensées uniquement sur le vieil assassin et de les détacher du lien d'art qui me rattachait au prince. Je sentais le sommeil agité de l'adolescent et sa frustration et son impatience sous-jacente mettaient mes nerfs à vif. Je m'efforçais de ne pas tenir compte de ses émotions pour communiquer à Imbre l'entretien que j'avais eu avec Péotr. Agacé par ma brusquerie avec le Kaimpra, il ne m'en écouta pas moins avidement d'écrire ses réactions. Je perçois des motifs dissimulés à l'intérieur d'autres motifs, comme dans les casse-têtes en forme de sphère du fou. Je suis persuadé que la Narcheska et lui poursuivent un but que nous ignorons et que tout le monde ne connaît pas plus dans la maison des mères, à part quelques-uns de ses membres. Almata, par exemple. L'arrière-grand-mère d'Eliania a été mise au courant aussi, mais j'ai l'impression que la portée lui en échappe. Lestra et sa mère piquent ma curiosité. La jeune fille doit devenir Narcheska quand Eliania partira à Castelserre pour épouser Devoir. Or, elle semble vouloir se battre avec elle pour obtenir les faveurs de Devoir, et je soupçonne sa mère de l'encourager. A-t-elle compris qu'accéder un jour au rang de reine des six duchés vaut peut-être mieux qu'arracher le titre de Narcheska à Eliania? Je ne crois pas que Lestra et sa mère attachent quelque importance à l'exigence de rapporter la tête du dragon. À mon sens, leurs ambitions devraient inquiéter Eliania et Péotr, mais ils affectent un air absent et pensent visiblement à autre chose. Eliania ne s'en prend à Lestra que si la provocation devient trop flagrante.
Comme avant leur rixe le soir des noces.
Des fiançailles, Fitz, des fiançailles. Nous ne reconnaissons pas à cette cérémonie la valeur de véritables épousailles. Le prince doit se marier chez lui, à Castelserre, et le mariage doit être consommé. Mais je ne parle pas seulement de cet affrontement. Lestra a tenté à d'autres reprises de séduire Devoir, en général en l'absence de sa rivale.
Eliania est-elle au courant?
Comment le pourrait-elle?
Si Devoir la prévenait, dis-je, que se passerait-il alors?
Je préfère ne pas l'apprendre. La situation est déjà bien assez compliquée ainsi. Et peut-être ne s'agit-il que de jalousie entre cousines. En revanche, j'aimerais savoir quel rôle joue Enya dans toute cette affaire. Vieille femme un peu toquée, ou bien davantage. As-tu la certitude de l'avoir reconnue?
Oui. Je ne l'avais pas identifiée de mes seuls yeux. Mais je ne tenais pas à révéler à Imbre que mon odorat m'y avait aidé et que je gardais assez du loup en moi pour me reposer sur ce sens avec assurance. Notre conversation avait fatigué le vieillard et je le laissai se reposer. Je vérifiai que la porte de la maison était bâclée, puis, à regret, fermai aussi les volets. L'idée de dormir dans un volume exigu et clos ne me souriait pas. Je jouis toujours d'un meilleur sommeil quand je sens l'air m'effleurer librement. Mais, après avoir vu Enya, je ne voulais offrir à personne l'occasion de se débarrasser facilement de moi. C'est dans cet état d'esprit que je m'allongeai par terre, et le lendemain, je mis sur son compte les cauchemars de la nuit. En toute justice, cependant, on ne pouvait guère qualifier ainsi mes rêves. Ils ne présentaient nul élément de terreur. Ils baignaient seulement dans une impression de malaise et possédaient un réalisme qui n'était pas celui des songes d'art. Je vis le fou tel que je l'avais connu autrefois, non sous les traits de cire dorée, mais sous l'aspect d'un adolescent pâle et frêle, aux yeux délavés. Assis en croupe de la fille au dragon, il s'élevait dans le ciel bleu. Tout à coup, il se mua en cire dorée, toujours derrière la jeune statue sans âme, inséparable de la sculpture de dragon qu'il avait rappelée à la vie et à la conscience, et une cape noire et blanc se mit à flotter au vent dans son dos. Ses cheveux noués en queue de guerrier luisaient plaqués sur sa tête. Il arborait un air si sévère et fermé qu'il semblait aussi inexpressif que la jeune femme dont il embrassait la taille fine. Je remarquai avec surprise ses mains nues, que je n'avais plus vues sans gants depuis bien longtemps. Ils montèrent et montèrent encore dans l'azur, et soudain, il tendit son long index fin. D'une pression des genoux, la fille au dragon ordonna à sa monture de suivre la direction qu'il indiquait, et des nuages les cachèrent alors à ma vue comme un manteau de brume. En ouvrant les yeux, je découvris mes propres doigts posés sur les empreintes ternes qu'il avait jadis laissées sur mon poignet. Je me retournai sans parvenir à m'éveiller tout à fait. Aussi m'enveloppai-je plus étroitement dans mes couvertures et sombrai-je à nouveau dans le sommeil. Cette fois, je me déplaçai par l'art et arrivai ainsi devant un tableau inquiétant. Assis sur le versant d'une colline verdoyante, Orti bavardait avec Tintaglia. Je reconnus la main de ma fille dans la confection de la scène, car les fleurs n'ont pas de couleur aussi éclatante, ni ne poussent aussi régulièrement dans l'herbe. On eût dit une tapisserie dessinée avec application. De la taille d'un cheval, la dragonne se tenait ramassée dans une position dont toute menace n'était pas absente. Je pénétrais dans le rêve. Le dos raide et la voix grêle, Orti demandait à la créature « Et quel rapport avec moi ?» En aparté, elle s'adressa à moi. « Pourquoi ce retard ? N'as-tu pas senti que je t'appelais ?»« Je t'entends parfaitement, tu sais, » fit Tintaglia d'un ton posé. « Il n'a pas perçu tes appels parce que je ne le voulais pas. Tu vois donc que tu es toute seule si j'en décide ainsi. »
Elle tourna brusquement son regard froid vers moi. Toute beauté avait quitté ses yeux de reptile qui évoquaient désormais deux pierres précieuses tournoyantes et pleines de fureur. Je suppose qu'à toi non plus, ce fait n'échappe pas.
Que veux-tu ? Fis-je tendu.
Je te l'ai déjà dit. Je veux apprendre ce que tu sais d'un dragon noir.
Existe-t-il vraiment ? Se trouve-t-il encore quelque part un autre dragon adulte et en bonne santé ?
Je l'ignore. Répondis-je sans mentir. Je sentis son esprit tirailler le mien, essayer d'aller voir derrière mes paroles si je ne lui cachais rien, comme les petites pattes froides d'un rat sur ma peau la nuit au fond d'un cachot. S'emparant de ce souvenir, elle voulut le retourner contre moi, et je renforçai aussitôt mes murailles mentales. Hélas, ce faisant, j'empêchai aussi Orti d'accéder à moi, et toutes deux prirent l'apparence d'ombre indécise sur un rideau ondoyant. La voix de Tintaglia me parvint comme un murmure menaçant.
« Accepte l'idée que ton espèce servira la mienne. C'est l'ordre naturel du monde. Aide-moi dans ma quête, et toi et les tiens prospéreraient. Combats-moi, et toi et les tiens finirez balayés. »
Soudain, la dragonne grandit et domina Orti.
« Ou dévorer ?»
ajouta-t-elle d'un ton entendu. Une sourde angoisse m'envahit. À un niveau primitif, la créature m'associait à Orti. Parce qu'elle m'avait toujours contacté par son biais, tout simplement, ou bien parce qu'elle percevait notre parenté. Mais était-ce important ? Ma fille se trouvait en danger, et par ma faute,
pour ne pas changer. Or, je n'avais aucune idée de la façon dont je pouvais la protéger. Mes inquiétudes se révélèrent vaines. La prairie piquetée de fleurs m'avait évoqué une tapisserie. Ortiz se leva brusquement, se courba, saisit son rêve et le secoua comme un tapis dont on fait tomber la poussière. La dragonne fut projetée, tournoyante, dans le néant et son image s'estompa avec la distance. Dans ce néant, Ortiz roula son rêve en boule et le fourra dans la poche de son tablier. Je ne savais plus où je me trouvais ni ce que j'étais dans son univers, mais elle me dit
« Il faut apprendre à lui tenir tête et à la chasser. Tu ne peux pas te contenter de te pelotonner dans un coin pour passer inaperçu. N'oublie pas, fantôme de loup, que tu es un loup, non une souris. »
Je le croyais en tout cas. Elle se mit à disparaître, peu à peu.
« Attendez !»
artisa le prince avec une résolution acharnée. D'une manière que je ne compris pas, il s'empara d'elle et la ligota.
« Qui êtes-vous ? »
Le saisissement d'Ortie me heurta comme une vague. Elle se débattit un instant, puis, constatant qu'elle s'épuisait en vain, elle demanda d'un ton hautain.
« Qui suis-je ? Et vous ? Qui êtes-vous pour vous introduire ici aussi grossièrement ? Libérez-moi !»
Devoir prit mal cette remontrance.
« Qui suis-je ? Le prince des six duchés, et je vais où bon me semble !»
Une seconde, Ortie resta coite.
« Ainsi, vous êtes le prince ? »
fit-elle enfin avec autant d'incrédulité que de mépris.
« En effet, et maintenant assez perdu de temps. Révélez-moi votre identité. »
Je fis la grimace en entendant son ton de commandement. Un vide effrayant, plein de silence, s'étendit autour de nous, puis Ortie réagit, comme je m'y attendais.
« Mais naturellement, puisque vous m'en priez si poliment, prince mal élevé, je suis la reine, je n'en crois pas un mot des sept fumiers. » Et vous allez peut-être où bon vous semble, mais quand ce « où » m'appartient, je vous interdis d'y pénétrer.
Changeur, tu devrais fréquenter des amis avec de meilleures manières. Je compris alors la riposte qu'elle avait préparée. Pendant le silence qui avait précédé sa réponse, elle avait découvert comment devoir s'était fixé à elle, et sans effort, elle se détacha de lui, puis disparut. Je me réveillais en sursaut sous le choc de son dédain qui s'était abattu sur moi comme une pluie de pierres. En proie à une tourmente intérieure où s'empoignait le respect pour ma fille et la terreur du dragon, je m'efforçais de rassembler mes esprits. J'avais besoin de réfléchir aux moyens d'action dont je disposais, mais Ambre s'imposa dans mes pensées.
« Il faut que nous parlions seul à seul. »
L'agitation faisait frissonner son art. « Seul à seul ? Vous êtes sûr de savoir le sens de cette expression ? Pourquoi fallait-il qu'il m'eût espionné justement cette nuit-là ? »
« Non, pas seul à seul. »
Devoir fit irruption dans notre échange, furieux contre nous deux.
« Qui est-ce ? Depuis combien de temps dure ce petit jeu ? J'exige des réponses. Comment osez-vous former un autre artiseur sans m'avertir de son existence ? »
« Redors-toi !»
Pesante, l'intervention de Lourd tenait le milieu entre un ordre et une plainte.
« Redors-toi et arrête de crier. Ce n'était qu'Ortie et son dragon. Retourne te coucher. »
Tout le monde connaît donc cette fille à part moi ? C'est intolérable !
Je sentais dans l'art de devoir une violente exaspération et le terrible sentiment de trahison qu'on éprouve en découvrant qu'on a été tenu à l'écart d'un secret.
J'exige de savoir qui elle est, à l'instant !
J'isolai solidement mes pensées et me mis à prier avec ferveur, sachant pertinemment que je n'y gagnerais rien. Le prince débusqua le vieil assassin de son silence.
Imbre !
« Je l'ignore, monseigneur, »
répondit-il, mentant avec aisance et sans scrupule. Je le maudis avec admiration.
« Fitz Chevalerie !»
Appeler quelqu'un par son véritable nom est un acte de pouvoir. Je frémis sous l'impact, puis demandai aussitôt au prince. « Ne me donnez pas ce nom, pas ici, pas maintenant, alors que le dragon nous écoute peut-être. » En réalité, ma crainte ne s'attachait pas à la créature, mais à ma fille, entre les mains de laquelle tombaient trop de fragments de mes secrets.
Parlez, Tom.
Pas ainsi. S'il faut aborder ce sujet, faisons-le de vive voix. Près de moi, dans l'obscurité, Lourd tira ses couvertures sur sa tête en grognant.
Venez tout de suite me rejoindre, fit le prince d'un ton inflexible.
Ce n'est pas raisonnable,
intervint le vieux conseiller.
Attendez le matin, mon prince. « Mieux vaut ne pas éveiller la curiosité en convoquant un homme d'armes chez vous en pleine nuit. »
Non, tout de suite. Essayez tous les deux de me cacher l'existence de cette ortie. Voilà ce qui n'était pas raisonnable. Je veux savoir ce qui se trame dans mon dos, et pour quel motif.
J'eus l'impression de me trouver dans la maison des mères, près des bancs, qui servaient de lit, et je sentis la colère qui repoussa le froid de sa poitrine nue quand il rejeta ses couvertures, la rage avec laquelle il enfila ses chaussures.
« Dans ces conditions, laissez-moi le temps de m'habiller, » fit Humbre d'un ton las.
« Non, inutile de vous déranger, conseiller Humbre. Vous ne savez rien, dites-vous. Épargnez-vous donc la peine de venir. Je verrai Fitz Tom, seul. »
Sa fureur rugissait comme un brasier, et pourtant, il s'était repris pour ne pas prononcer mon nom. Une partie de moi-même admira sa maîtrise, mais un problème occupait surtout mon esprit. Mon prince éprouvait un grand courroux contre moi et, de son point de vue, il avait raison. Comment allais-je répondre à ses questions? Qui étais-je pour lui cette nuit? L'ami? Le mentor? L'oncle? Ou le sujet? Je m'aperçus que Lourd, assis dans son lit, me regardait me vêtir. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu ne crains rien. Mais je doutais de mes propos, alors même que je les prononçais. Je n'aime pas laisser Lourd seul dans la maison, artisai-je au prince en formant le vœu que cette excuse me dispenserait de sa convocation.
Eh bien, amenez-le.
Sa réponse avait claqué sèchement. Tu veux m'accompagner?
Je l'ai entendu,
fit Lourd d'un air fatigué. Il poussa un long soupir.
Tu m'obliges toujours à aller là où je n'ai pas envie,
ajouta-t-il en cherchant des vêtements dans le noir. Ronchon, il refusa mon aide et j'eus l'impression qu'une année entière s'écoulait avant qu'il ne finît de s'habiller. Enfin, nous quittâmes notre logement et traversâmes le village. L'étrange crépuscule qui tient lieu de nuit dans cette région du monde donnait à tout un aspect grisâtre. Curieusement, je trouvais cette lumière reposante pour l'œil et après réflexion, je compris d'où provenait cette sensation. Ces couleurs affadies me rappelaient la façon dont Œil de Nuit les percevait le soir et à l'aube, à la fin de nos parties de chasse. Cet éclat doux, où nulle teinte ne distrayait l'attention, permettait de détecter les plus infimes mouvements du gibier. Je me déplaçais d'un pied léger, mais Lourd marchait pesamment à mes côtés, la mine accablée, saisie de temps en temps d'une quinte de toux. Songeant qu'il n'avait pas encore recouvré complètement la santé, je tâchais de ne pas m'agacer de sa lenteur. De petites chauves-souris voltaient vivement au-dessus du hameau. Je repérais la reptation furtive d'un rat voleur qui se glissait hors d'une barrique d'eau de pluie au seuil d'une porte. S'agissait-il du même que celui avec lequel l'Est avait tenté de lier connaissance? Je repoussais ces interrogations futiles. Nous approchions de la maison maternelle. La cour était déserte. On n'y postait jamais de sentinelles alors qu'on maintenait une surveillance constante sur la côte et le port. À l'évidence, ces gens ne redoutaient pas d'attaques venues de leur propre sein. Je me demandais alors si Péotre m'avait dit tout ce qu'il savait sur Enya. La Narcheska et lui se méfiaient d'elle, à l'évidence, et ils l'avaient décrite comme étrangère au clan. Pourquoi, dans ces conditions, laisser la maison des mères sans défense? Nous contournâmes le bâtiment et nous dirigeâmes vers l'arrière en passant les murets de pierre et les haies qui enclosaient les moutons. Derrière l'angle d'un appentis, le prince nous attendait près d'un bosquet de buissons, non loin des latrines. Il nous regarda venir avec une agitation irritée et je perçus son impatience. En silence, je lui fis signe de nous rejoindre à l'abri d'un brise-vent.
« Non, ne vous approchez pas, ne bougez plus, non, cachez-vous, ou bien allez-vous-en. »
Je m'arrêtai, égaré par ses ordres inattendus et contradictoires, puis je vis la cause de son émotion. Eliania, un manteau par-dessus sa chemise de nuit, se penchait par une porte et jetait des coups d'œil alentour. Je n'eus que le temps de plaquer la main sur la poitrine de Lourd et de l'obliger à reculer derrière la ligne d'arbustes. Il repoussa ma main d'une tape irritée.
« Je l'avais entendu !»
fit-il, malgré mes chutes répétées.
« Il ne faut pas faire de bruit, Lourd. Le prince ne veut pas qu'Eliania sache que nous sommes là.
« Pourquoi ?»«
Il ne veut pas, c'est tout.
Nous devons nous cacher sans faire de bruit. » Je m'accroupis derrière la haie et tapotait le sol près de moi pour inviter Lourd à m'imiter. Silhouette voûtée sur la grisaille du ciel, il me regardait d'un air mécontent. J'avais envie de le ramener chez nous, mais Eliania aurait certainement entendu son pas traînant si nous avions tenté de nous éloigner. Non, Mieux valait attendre. Il n'y en aurait sans doute pas pour longtemps. Elle devait avoir envie d'aller aux latrines, tout simplement. Prudemment, je coulais un regard par une trouée entre les branches. « Venez nous rejoindre avant qu'elle ne vous voie, » artisai-je au prince.
« Non, elle a déjà remarqué ma présence. Allez-vous-en, je vous parlerai plus tard. »
Puis, à ma grande surprise, il dressa ses murailles d'art pour se couper de moi. Son talent s'était développé. Par le vif, je le sentis comme en arrêt, frémissant, sous le regard droit d'Eliania. Elle se dirigeait vers lui dans la lueur crépusculaire d'un soleil qui frôlait le bord de l'horizon sans vouloir se coucher. Avec inquiétude, je la vis s'approcher rapidement de Devoir et s'arrêter tout près de lui dans la pénombre. Ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient clandestinement. J'aurais voulu détourner les yeux, mais au contraire, je les observais avidement à travers la haie. La voix de la jeune fille me parvint à peine.
« J'ai entendu ta porte s'ouvrir, puis se refermer, et quand j'ai regardé par la fenêtre, je t'ai vu dehors. » Je n'arrivais pas à dormir.
Il tendit les mains, comme pour saisir celles d'Eliania, puis les laissa retomber le long de ses flancs. Je sentis plus que je ne vis le rapide coup d'œil qu'il lança dans ma direction.
« Allez-vous-en, je m'entretiendrai avec vous demain. »
Il avait émis un faisceau d'art si étroit que même Lourd n'avait pas dû le percevoir, mais empreint d'une autorité royale. Je devais lui obéir.
« Je ne peux pas. Vous jouez à un jeu dangereux, vous le savez. Renvoyez-les dans ses appartements, Devoir. »
Rien ne m'indiqua qu'il avait reçu ma réponse ou non. Il s'était complètement barricadé pour se concentrer exclusivement sur la jeune fille. Derrière moi, Lourd se leva en bâillant.
« Je rentre !»
annonça-t-il d'une voix ensommeillée.
« Chut, non, il faut rester sans faire de bruit. Ne parle pas tout haut. »
J'observais le couple anxieusement, mais si Eliania avait entendu le simple d'esprit, elle n'en montra rien. Avec angoisse, je me demandais où se trouvait Piotr et comment il réagirait envers Devoir s'ils les découvraient ensemble, tout proches l'un de l'autre. Lourd poussa un grand soupir, se raccroupit, puis s'assit carrément par terre.
« Je m'ennuie, je veux retourner au lit. »
Eliania baissa brièvement le regard vers les mains ballantes de Devoir et le releva aussitôt vers son visage, la tête un peu penchée.
« Bien, qui attends-tu ? »
Elle plissa les yeux.
« Estra, t'a-t-elle donné rendez-vous ? »
Un singulier sourire naquit sur les lèvres du prince. Se sentait-il flatté d'avoir piqué sa jalousie ? Parlant plus bas que la Narcheska, mais éclairé de telle façon que je parvins à lire les mots sur ses lèvres, il répondit
« Nestra, pourquoi l'attendrai-je au clair de lune ?»«
Il n'y a pas de lune cette nuit, » rétorqua sèchement la jeune fille.
« Pourquoi l'Estra ?»«
Parce qu'elle serait prête à te donner son corps et à te laisser en jouir comme bon te semblerait, plus pour me dépiter que parce qu'elle te trouve beau. »
Il croisa les bras sur sa poitrine. Pour contenir sa satisfaction ou pour s'empêcher de prendre Eliania dans ses bras. Elle était mince et souple, comme un saule, et ses tresses tombaient jusqu'à ses hanches. J'avais l'impression de percevoir par la peau de Devoir la chaleur qui émanait d'elle.
« Ah, tu crois qu'elle me trouve beau ?»«
Qui sait ? Elle a des goûts bizarres. Elle a un chat avec la queue tordue et trop de doigts aux pattes, et elle le juge adorable. »
Elle haussa les épaules. « Mais elle n'hésiterait pas à te dire que tu es beau, rien que pour te séduire. »«
Vraiment ?»«
Mais si je n'ai pas envie que l'Estra me séduise. »« Elle est jolie, mais si je ne veux pas d'elle, » fit Devoir d'un ton insidieux. La nuit retint son souffle pendant qu'elle le dévisageait. Je vis sa poitrine se soulever quand elle prit une profonde inspiration, se mettant au défi de répondre.
« Alors que veux-tu »
demanda-t-elle dans un murmure de brise. Il n'essaya pas de l'embrasser. Elle lui aurait résisté de toute façon, je pense. Il décroisa un bras et, du bout de l'index, souleva son menton. Il se pencha pour lui voler un baiser.
Voler.
Elle ne s'enfuit pas. Au contraire. Elle se hissa sur la pointe des pieds et leurs lèvres se touchèrent dans la douce lueur de la nuit. Je me faisais l'effet d'un vieux voyeur, tapi derrière ma haie, à les espionner. Devoir se jetait tête la première dans le danger, je le savais, ils prenaient tous deux des risques inconsidérés. Mais mon cœur se dilatait de joie à l'idée que mon garçon allait peut-être connaître l'amour, malgré un mariage arrangé.
Quand leur baiser s'interrompit enfin, j'espérais qu'il renverrait Eliania dans sa chambre. Autant que me réjouit ce moment d'intimité, je me verrais dans l'obligation d'intervenir si l'expérience menaçait de se poursuivre au-delà. Cette idée m'emplit d'horreur, mais je m'endurcis, nécessité faisant loi. J'écoutais avec appréhension la question que posa la Narcheska, le souffle court.
Un baiser? Est-ce tout ce que tu désirais?
C'est tout ce que je veux prendre pour l'instant, rétorqua-t-il. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il sortait d'une course. J'attendrai d'avoir mérité davantage pour obtenir davantage. Un sourire hésitant flotta sur les lèvres d'Eliania. Tu n'es pas obligé de le mériter si je décide de m'offrir à toi. Mais tu as déclaré n'accepter de devenir mon épouse que si je te rapportais la tête du dragon.
Chez moi, une femme se donne comme elle le souhaite. Ça n'a pas de rapport avec le fait d'être mariée ou d'être une épouse, comme tu dis. Quand elle devient adulte, une fille peut ouvrir ses draps à tous les hommes qu'elle désire. Cela ne signifie pas qu'elle se marie avec chacun d'eux. Elle détourna les yeux et ajouta d'un ton circonspect. Tu serais mon premier. Pour certains, cela revêt plus d'importance que les serments qu'un couple échange. Cela ne ferait pas de moi ton épouse, naturellement. Je ne le deviendrai que lorsque tu déposeras la tête du dragon ici, dans ma maison maternelle.
J'aimerais que tu sois ma première, toi aussi, répondit Devoir, sur le même ton. Puis il ajouta, et on eût cru que prononcer ces mots lui demandait autant d'effort que déraciner un arbre à la main. Mais pas tout de suite, pas avant que j'aie accompli ce que j'ai promis. Elle parut sidérée. Pourtant, son étonnement ne provenait pas de ce qu'il souhaita tenir son engagement.
Ta première, c'est vrai? Tu n'as jamais connu de femme?
Il lui fallut un long moment pour répondre. Ainsi le veut la tradition de mon pays, encore que tous ne la respectent pas. Nous devons attendre le mariage. Il s'exprimait d'un ton guindé, comme s'il redoutait qu'elle moquât sa chasteté.
J'aimerais être ta première, avoua-t-elle.
Elle s'approcha de lui, et cette fois, il referma les bras sur elle. Elle fondit son corps dans le sien, tandis que leurs lèvres se trouvaient. Mon vif me prévint de l'arrivée de Péotre avant eux. D'ailleurs, ils étaient si absorbés qu'un troupeau de moutons aurait pu sans doute passer autour d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Je me redressai quand je vis le guerrier tourner l'angle de la maison maternelle. Son épée pendait à sa hanche et son regard avait un éclat inquiétant.
« Eliania !»
D'un bond, elle quitta les bras de Devoir et elle s'essuya la bouche d'une main coupable, comme pour effacer le baiser qu'ils venaient d'échanger. À l'honneur du prince, je dois dire qu'il resta ferme. Il planta les yeux dans ceux de Péotre, et rien dans son attitude ne dénota le remords, la honte, ni une provocation d'adolescent. Il avait l'air d'un homme dérangé pendant qu'il embrassait une femme qui lui appartenait. Je retins ma respiration, ne sachant si j'aggraverais la situation ou si je l'arrangerais en révélant ma présence. Il régnait un silence immobile et attentif comme la nuit. Le prince et le guerrier restaient les yeux dans les yeux, avec un regard qui ne défiait pas, mais mesurait. Enfin, Péotre parla, et il s'adressa à Eliania. « Remonte dans ta chambre. » Elle fit aussitôt demi-tour et s'enfuit. Ses pieds nus n'éveillaient aucun bruit sur la terre de la cour. Même après son départ, Devoir et Péotre continuèrent de s'observer. Enfin, le Kaempra déclara. « La tête du dragon, vous avez promis. Vous avez donné votre parole d'homme. » Le prince acquiesça gravement. « C'est exact. J'ai promis en tant qu'homme. » Péotre commença de se détourner pour s'en aller. Devoir l'arrêta. « Ce qu'Eliania m'a offert, c'est la femme qui me l'a offert, non la Narcheska. En a-t-elle la liberté selon vos coutumes ?» Le dos de l'autre se raidit. Il pivota et répondit avec réticence. « Qui d'autre qu'une femme peut vous le donner ? Son corps lui appartient, et elle a le droit de le partager avec vous. Mais elle ne sera vraiment votre épouse que lorsque vous lui rapporterez la tête de glace-feu. »
Ah !
Péotre s'apprêta de nouveau à s'éloigner, et la voix de Devoir interrompit de nouveau son mouvement. alors elle est plus libre que moi. Mon corps et ma semence appartiennent aussi au duché, et je n'ai pas le droit de les partager avec qui bon me semble, mais seulement avec mon épouse. Telle est notre coutume. Je crus l'entendre avaler sa salive. Je tiens à ce qu'elle le sache. Notre tradition m'interdit d'accepter ce qu'elle m'offre, sauf à y perdre mon honneur. Il baissa la voix et poursuivit sur le ton de la prière. Je voudrais lui demander de ne plus me soumettre à la tentation, ni la raillerie de ce que je ne puis prendre de façon honorable. Je suis un homme, mais je suis un homme. Ses explications mêlaient maladresse et sincérité. Piotr répondit de même, avec un respect contraint.
« Je ferai en sorte qu'elle le sache. »
En serais-je déconsidéré à ses yeux? En serais-je diminué en tant qu'homme?
Pas pour moi. Je veillerai à ce qu'elle comprenne ce qu'il en coûte à un homme de repousser pareil présent.
Il regarda de voir comme s'il le voyait pour la première fois. Puis il dit, avec une grande tristesse dans la voix,
« Et vous êtes un homme. Vous représenteriez un bon parti pour ma fille-sœur. Les petites filles de votre mère enrichiraient ma lignée. »
À la façon dont il prononça cette dernière phrase, on eût dit une formule de politesse plutôt que l'expression d'un espoir qu'il pût nourrir raisonnablement. Il se détourna et s'en fut sans bruit. Je vis devoir pousser un grand soupir. Je craignais qu'il ne martisât, mais non. La tête basse, il pénétra dans la maison maternelle d'Eliania. L'ours s'était endormi et assis par terre, le menton sur la poitrine. Il gémit légèrement quand je le secouais par l'épaule avec douceur, puis je l'aidai à se redresser.
« Je veux rentrer chez nous, »
marmonna-t-il en suivant d'un pas mal assuré la route à côté de moi. « Moi aussi, » dis-je. Pourtant, l'image qui me vint à l'esprit ne représentait pas Castelserre, mais une prairie qui surplombait la mer et une jeune fille en jupe rouge vif qui me faisait signe. Une époque plutôt qu'un lieu, inaccessible par aucune route.